Og så du...
RFI 4h à Paris, 2h en temps universel, 5h à Kiev.
Antoine Galen.
À la une, l'accord sur les minerais avec l'Ukraine sera signé jeudi prochain. Annonce du président américain Donald Trump, une contrepartie de Kiev pour l'aide accordée à l'Ukraine sous Joe Biden. Pendant ce temps, la présidence française se félicite d'un processus positif entre Américains, Européens et Ukrainiens. Après une rencontre à Paris ce jeudi pour mettre fin au conflit entre Kiev et Moscou, dans ce journal également, le débat sur l'excision refait surface en Gambie. La Cour suprême va se pencher sur le dossier. La menace de récession s'estompe, c'est ce qu'indique le Fonds monétaire international. Et puis à Roland-Garros, hommage XXL à trois joueurs et joueuses qui ont marqué le tournoi, Richard Gasquet, Mary Pierce et Rafael Nadal. Washington et Kiev à deux doigts de se serrer la main concernant les minerais ukrainiens. Ils ont signé un protocole d'intention synonyme d'un accord, une forme de contrepartie pour l'aide accordée à l'Ukraine sous Joe Biden. Et ce, tandis que l'Élysée se félicite après la rencontre entre Américains, Européens et Ukrainiens à Paris. Les diplomates Marco Rubio et Steve Witkoff étaient notamment présents. Pierre-Olivier, pour les Américains, il s'agit aussi de faire avancer les choses vers une fin du conflit russo-ukrainien.
Américains et Européens ont chacun leur intérêt dans ces discussions. Toute la journée à Paris, les entretiens se sont enchaînés avec autour de la table des émissaires de Donald Trump, mais aussi des représentants ukrainiens. Un moyen pour l'Europe, jusqu'à présent exclue des pourparlers, de se repositionner dans le jeu et faire entendre sa voix. Côté américain, Donald Trump avait promis pendant sa campagne de régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Mais même depuis son rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, les choses piétinent et le président américain veut à tout prix aboutir à une paix le plus vite possible. C'est donc vers les Européens que les Américains se tournent. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.
Ils ont compris qu'une paix juste et durable, une paix durable, ne peut être atteinte qu'avec, d'une certaine manière, le consentement des Européens et la contribution des Européens, non seulement en soutien de l'Ukraine, mais également le moment venu pour surveiller un cessez-le-feu.
Question principale qui n'a pas encore été résolue ce jeudi, quid d'un contingent militaire international sur le sol ukrainien pour garantir une paix durable. Les pourparlers ont en tout cas bien commencé. Une autre session de discussion dans le même format aura lieu la semaine prochaine à Londres.
Et de son côté, Donald Trump attend une réponse de la Russie cette semaine sur un cessez-le-feu direction la Gambie, où le débat sur l'excision est de nouveau sur la table. Cette fois, c'est la Cour suprême qui va se pencher sur le dossier. Ce mardi, la haute juridiction s'est déclarée compétente pour examiner la plainte déposée par des associations religieuses et un député. Ce même député qui, l'an dernier, s'était vu rejeter sa proposition de loi pour autoriser l'excision. Même si elle perdure dans le pays, la pratique est officiellement interdite depuis 10 ans. Rétrospective avec Sidi Yansané.
Lorsque l'amendement interdisant l'excision a été voté en 2015, le président gambien d'alors, Yahya Jammeh, justifie cette décision par l'absence de justification religieuse de cette pratique dans l'islam. 11 ans plus tard, le député Almamé Djiba affirme le contraire et dépose une proposition de loi pour lever cette interdiction qui, je cite, « viole les droits des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion ». La proposition fait polémique. Une centaine de femmes et de survivantes, comme se définissent les victimes d'excision, se mobilisent devant l'Assemblée nationale pour protester, soutenue par leurs consoeurs au Sénégal. L'Assemblée finit par rejeter la proposition du député Djiba en juillet dernier. Pas de quoi décourager le parlementaire qui revient à la charge en saisissant cette fois la Cour suprême qui se déclare compétente pour traiter le dossier. En 10 ans, l'interdiction est loin d'avoir éliminé l'excision, même si la pratique diminue. En 2023, l'UNICEF estimait que 73% des Gambiennes étaient excisées.
La récession n'est plus à l'horizon. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, écarte ce risque ce jeudi. Elle s'est exprimée en amont des réunions de printemps qui se tiendront la semaine prochaine. Un temps fort prévu cette année dans le contexte particulier de redéfinition mondiale des droits de douane. Donald Trump a mis en place des droits de douane d'au moins 10% sur l'ensemble des produits entrant aux États-Unis. Alors les perspectives économiques mondiales se seront publiées la semaine prochaine, mais la directrice du FMI a dévoilé les grandes tendances. On l'écoute.
Nos nouvelles projections de croissance incluront des baisses notables, mais pas de récession. Les prévisions d'inflation pour certains pays seront également revues à la hausse. Nous mettrons en garde contre le fait qu'une incertitude élevée et prolongée augmente le risque de tensions sur les marchés financiers. Au début du mois, nous avons observé des mouvements inhabituels sur certains marchés obligataires et monétaires clés. Nous voyons comment le dollar s'est déprécié et les rendements du Trésor américain ont augmenté. De tels mouvements doivent être considérés comme un avertissement. Tout le monde souffre si les conditions financières se détériorent. À l'inverse, nos perspectives économiques mondiales montreront également qu'une action politique déterminée visant à résoudre les différends et à rééquilibrer la situation peut donner de meilleurs résultats.
Des produits de luxe à prix cassé, c'est ce que promettent des influenceurs chinois sur les réseaux sociaux. Selon eux, la plupart des grandes marques européennes fabriquent leurs produits en Chine. Alors ils appellent les consommateurs à faire affaire directement avec eux via des sites de vente en ligne. Une vague d'arnaques qui a déferlé juste après l'imposition des nouveaux tarifs américains contre les importations chinoises, Gali Bonin.
Le phénomène a eu l'effet d'une bombe sur TikTok.
Est-ce que vous avez vu la dinguerie qui est en train de se produire en ce moment en Chine ?
Des sacs Hermès à une fraction du prix, des chaussures Louis Vuitton pour quelques dizaines d'euros.
Alors comme ça, les marques de luxe produisent tout à 5 euros en Chine ?
Spoiler alert, oui.
Les vidéos qui font la promotion de produits de luxe à bas prix se multiplient. À l'origine du mouvement, des influenceurs chinois qui assurent révéler les secrets des grandes maisons de luxe.
Plus de 80% des sacs de luxe sont fabriqués en Chine, mais les grandes marques refusent de leur connaître. Elles prennent des produits pratiquement terminés dans les usines chinoises et puis elles rajoutent un logo et elles refont l'emballage en Europe. Comme ça, elles peuvent les vendre dans leur boutique avec l'étiquette Made in Italy ou Made in France.
Des accusations rejetées par le monde du luxe, Ivan Agna, fondateur du cabinet de conseil Lighthouse, dénonce une vaste opération de désinformation.
C'est une vraie cabale qui demande une réaction vive, pas simplement des marques, mais probablement aussi des autorités. Les chaînes d'approvisionnement des maisons de luxe sont très rigoureuses, très canalisées, dans que quelques pays qui sont la France, l'Italie, ça reste très ancré en Europe.
Sur leur site internet, les deux géants français LVMH et Hermès l'assurent, ils ne possèdent aucune manufacture en Chine.
Des droits de douane américains qui font vaciller la Chine. Pékin reste taxé à 145% par les taxes de Donald Trump et a imposé en représailles 125% sur les produits américains. Alors pour faire face à l'offensive douanière américaine, Pékin renforce ses liens en Asie du Sud-Est. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le premier ministre cambodgien ce jeudi à Phnom Penh. Il s'était auparavant rendu au Vietnam et en Malaisie. C'est le tournoi de tennis le plus attendu en France, Roland-Garros, est dans un peu plus de 5 semaines. Les grandes lignes de l'édition 2025, prévues du 25 mai au 8 juin, ont été données ce jeudi. Ce sera l'occasion de rendre hommage à 3 joueurs et joueuses qui ont marqué le tournoi. Richard Gasquet qui rangera sa raquette pour de bon après Roland-Garros. Marie Pierce, dernière française à avoir gagné le tournoi, c'était en 2000. Mais aussi Rafael Nadal, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil, retraité depuis novembre dernier. Célébrer sa carrière sur la terre battue parisienne, rien de plus évident pour Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi.
C'est une envie qu'on avait déjà l'année dernière et qu'on n'a pas pu mettre en place de lui rendre hommage à cette histoire hallucinante qu'il a avec le tournoi de Roland-Garros et ses 14 victoires. Donc plein de belles choses et on espère que ce sera un moment surtout d'émotion, je dirais d'abord pour lui, parce qu'il le mérite, et puis évidemment pour tous les gens qui sont dans le stade. Ensuite, il y a Marie, elle a gagné en 2000. En 2020, c'était l'édition Covid, donc les 20 ans de sa victoire n'avaient pas pu être fêtés. Et surtout aussi son entrée au Hall of Fame l'année dernière. On a voulu lui rendre hommage, donc ce sera entre les deux demi-finales femmes. Et puis Richard, évidemment, toute son histoire depuis tant d'années à Roland-Garros, on a envie, il l'a dit, ça allait être son dernier tournoi, on a envie de lui rendre hommage et de faire un petit moment aussi d'émotion pour lui.
On met de côté la petite balle jaune pour le ballon rond, quart de finale, retour de Ligue Europa. Match fou entre l'OL et Manchester United. Les Lyonnais gagnaient 4-2 en prolongation, mais perdent 5-4 dans les dernières minutes. On croyait que c'était déjà fini, regrette Malik Fofana. De son côté, Tottenham passe en demi après une victoire 1-0 contre Francfort. Autre qualifié, l'Athletic Bilbao et Bodø/Glimt, l'équipe norvégienne, vraie surprise de cette Ligue Europa.